Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Come fattissimo.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Cinémascope. Que l'on me donne la parole, bon sang de bonsoir. Une émission du midi et du soir, d'ailleurs, rediffusée ce soir à 17h10. Une émission en forme de festival, parce que au-delà des films à l'affiche, et nous sommes déjà bien garnis, il va y avoir l'opération, nous allons évoquer l'opération de la Maison de l'Image, un livre, un film, et puis le festival Télérama en particulier, parce que le choix de Télérama se révèle une fois de plus assez exemplaire. Donc je rappelle le festival Télérama du 21 au 27 janvier, l'occasion de revoir sur grand écran de très beaux films à pas trop cher. Pour parler de tout ça, eh bien, avec moi, Julien, la Maison de l'Image.
Bonjour.
Et puis Alexis, du Vivant, c'est Vivant.
Bonjour, j'allais dire bonsoir, c'est l'habitude ça, de travailler en soirée. Oui, bonjour à tous.
Ouais. Et ça m'a fait la même chose.
Mais c'est parfait pour la diffusion de 17h10.
Alors, les films à l'affiche, Fursi, d'Abdel Malik, Father, Mother, Sister Brother de Jim Jarmusch, naturellement, et puis enfin La Condition. Voilà, on commence par Fursi.
Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes.
J'ai le droit de circuler librement, il fallait demander au procureur du roi. Silence !
Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Bega.
Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté.
Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice.
Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Tu retournes travailler, tu pars pour l'aile Maurice.
C'est toi, Fursi ? Perce les yeux quand je te parle !
J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai.
Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi.
Je manie la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat.
Tout est organisé pour maintenir ce système en place.
Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux.
Pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice ?
On a été esclave, on l'est toute sa vie.
Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ?
Voilà, nous avons laissé la bande-annonce en entier. Elle est un peu longue, mais je crois qu'elle fait largement office de pitch pour parler de ce film et en montrer en même temps les enjeux là entendus. Ce film a été réalisé par Abdel Malik, que j'ai eu le plaisir d'entendre, rappeur, poète, hein, donc, et donc réalisateur désormais, que j'ai eu le plaisir d'entendre sur France Culture, je crois. Et vraiment, c'était un plaisir de l'entendre parce qu'on avait un discours, qu'on écoute avec un grand profit, un vocabulaire riche et des positions, un argumentaire également très intéressant. C'est un roman qu'on lui avait mis entre les mains il y a une dizaine d'années. Il s'agit du roman de Mohamed Essaoui intitulé « L'affaire de l'esclave Fursi ». Et 10 ans après cette première rencontre avec le roman, ben, il a décidé de le mettre de le porter à l'écran. Julien, tu as vu ce film ?
Oui, tout à fait, j'ai vu ce film, et évidemment, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, je, par le sujet qu'il aborde, donc je vous resitue un petit peu, après, il porte très très bien son titre, on va dire, le film, mes livres. C'est-à-dire qu'il va vous raconter, enfin, on se trouve à La Réunion, donc l'île de La Réunion, qui est une île qui fait partie des domaines d'outre-mer de la France. Et à ce moment-là, effectivement, on va assister à la lutte entre, à la fois d'un côté, un esclave qui est toujours sous esclavage sur cette île, face à les colons qui sont sur place et qui maintiennent ce système-là dans ces colonies, alors qu'il a été, je crois, aboli en France parallèlement.
Pour clarifier au niveau de la chronologie, Furcy, il est né en 1786, il est mort en 1856, c'est-à-dire qu'il a, de son vivant, on a connu l'abolition de l'esclavage par la Révolution française, son rétablissement par Napoléon et son réabolition pour la deuxième République en 1848. Donc effectivement, c'est extrêmement troublé du point de vue du droit, et ça couvre donc toute la monarchie de Louis-Philippe, une monarchie bourgeoise où l'essentiel c'était de gagner de l'argent. Donc on voit les conséquences que ça peut avoir sur l'esclavage, évidemment.
Et donc du coup, effectivement, on se trouve entre on suit, on va dire, cet esclave qui essaye de retrouver sa liberté, parce que effectivement, comme le dit le titre, il est né libre, mais il est toujours considéré par ses patrons, on va dire, comme un esclave. Donc du coup, il n'a pas de liberté, ce qu'il va essayer de recouvrir via le procès, en fait. Via l'écrit, en fait, c'est un film aussi sur l'écrit, sur les livres, sur le fait d'être éduqué et de pouvoir s'emparer des armes des esclaveurs, on va dire. Je le dis, j'invente un peu un mot, mais les ravages de l'esclavage, je pense que ça correspond bien. Et là, le film nous le montre bien. C'est assez rare de cinéma qu'on nous parle de l'esclavage en France et de l'esclavage français. C'est un des premiers films quand même de fiction, en tout cas, je ne parle pas de documentaire, mais de fiction, qui nous parle aussi clairement, en fait, de ce qui s'est passé à la fois dans nos colonies. Il nous dit aussi quelque chose de très important, c'est que on a quand même des moyens de lutte, puisque effectivement, on est les héritiers de cette Révolution française, de cette citoyenneté et de cette idée-là aussi de liberté. Et donc du coup, on va voir effectivement les deux pensées, à la fois réactionnaires du côté, avec un Vincent Macken magnifique, tellement on a envie de le détester. mais quel acteur, mais quel acteur ce Vincent Macken, parce que là, il est odieux au possible. Enfin voilà, je trouve qu'il est très très bon là-dedans. Et à la fois, on a Romain Duris qui lui, malgré toutes ses contradictions, essaye de faire ce qu'il peut, mais il a cet idéal quand même de libertaire, lui, enfin de liberté, on va dire, et ce personnage effectivement très noble, et enfin voilà, qui est aussi qui est joué par Makita Samba, très bon acteur aussi sur ce film. Donc du coup voilà, on a ces personnages là. Donc je vais pas rentrer dans le détail voilà, il y a des très beaux plans aussi, il y a un montage comme ça, il y a quelques maladresses à mon avis sur certains moments, mais on est quand même emporté par l'intérêt du sujet et de ce qu'il nous raconte, et je trouve que on apprend quand même beaucoup beaucoup de choses, et c'est un film plutôt important, je trouve. Voilà.
Ouais, Alexis tenait à en parler également.
Oui, je suis plutôt d'accord avec Julien. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi, malgré... Alors moi, quand j'écoute la bande-annonce, on est quand même sur ce côté très théâtral, quand même, sur ce film-là. Et même pour l'avoir vu, le jeu des acteurs reste théâtral. Mais ça va aussi très bien avec les procès, hein, donc c'est pas non plus choquant. Moi, je trouve que ça représente bien le pouvoir de l'écrit également et de comment on s'exprime. Et ce film-là reste assez très très épuré, très on va dire très simple en fait, vraiment dans sa conception, dans sa...
Pédagogique du coup.
Exactement. Mmh. Alors après, moi les coups de fouet par exemple, je les ai reçus aussi en pleine figure, hein. On sent la brutalité, ce film il est assez brutal quand même.
Il y a des choses qui se passent hors champ, justement pour que ça soit plus...
Pas toujours. Et on voit justement cette... Enfin, moi j'ai le personnage de Fursi qui part en transe carrément dans les champs en fait, justement, où on voit qu'il à force de fatigue, etc. En fait, on souffre avec lui. Il part en démence complète à certains moments. Et puis, des fois, il est raccroché par son combat. On va le raccrocher par ce qui se passe. Il y a presque un côté fantastique à certains. Enfin, moi, je l'ai considéré comme ça à un moment. Mmh. Il y a un côté fantastique.
Réalisme magique, peut-être.
Ou c'est ça, presque ça. Et on voit où le combat va le mener. Donc, on va pas dire la fin. Mais j'ai trouvé ce film assez pertinent. Et déjà, moi, je trouve que c'est déjà une belle leçon d'histoire. Même pour les jeunes à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et rien que pour les jeunes, je leur dis allez le voir, allez vous instruire, allez savoir ce qui s'est passé. À travers le travail de la fiction, en tout cas, et de cette adaptation, je dis bravo, il faut des films comme ça.
Je pense que ça serait effectivement ça peut donner des occasions de parler de l'esclavage contemporain, évidemment, qui existe toujours. Et dans les propos très intéressants d'Abdelmalik, dont je parlais tout à l'heure, il dit une chose intéressante, puisqu'il parle, dans la mesure où il parle d'un devoir de mémoire, y compris en ce qui concerne l'irréparable. Parce qu'on parle beaucoup de réparation, et à juste titre, naturellement. Il s'agit, si on le peut, de réparer auprès des nations qui ont été touchées par l'esclavage, les nations sud-africaines, par exemple. Mais tenir compte de l'irréparable et de réparations qui sont à ce moment-là d'un ordre plus spirituel qu'économique et social. Et j'ai trouvé le discours d'Abdelmalik sur ce plan-là très intéressant et très original et qui donnait beaucoup à penser à un niveau effectivement quasiment spirituel. On va continuer avec la dernière production de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, tout le monde.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh. Huh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up.
You've always been my favorite son.
Well, your only son.
As far as we know.
You're dead.
Shall I be mother?
You might as well start sometime.
May I ask if you still take anything?
No, I don't. I don't. No heroin, no cocaine, no uppers, no downers, no goofballs, nothing.
Daddy, I just... God! Oh.
We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing.
Voilà, je crois que cette bande-annonce dit l'essentiel d'une certaine manière. Vous aurez reconnu Tom Waits, naturellement. La bande-son qui est toujours somptueuse chez Jim Jarmusch, et ici, il est en partie compositeur et interprète de la musique de son propre film. Un film à sketch, une fois de plus, trois sketchs. Avec un casting de luxe, Tom Waits, Charlotte Rampling, Scarlett Johansson, Adam Driver. Enfin bon, c'est très très luxueux. Avant de dire ce que j'en ai pensé, je préfère laisser Alexis nous dire ce que lui en a pensé.
Donc déjà, on part sur un triptyque, comme tu as dit, sur le poids de la famille, déjà. Alors déjà un film très sobre dans sa réalisation, hein, ça on va vraiment à l'essentiel, que ce soit sur les trois triptyques d'ailleurs. Alors moi j'ai beaucoup aimé déjà l'intro avec la musique, avec on entend juste la basse au départ, ça déjà nous met tout de suite dans l'ambiance avec le parcours au tout début en voiture, on voit déjà deux deux mondes différents qui vont s'opposer quand ils arrivent donc chez le père, hein, dans le premier triptyque. Et alors, je vais juste faire une petite analyse, mais ça fait du bien de voir Adam Driver ailleurs que dans des franchises. Moi, je l'aime pas du tout en méchant de Star Wars. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bon dans les films indépendants? Voilà, ça a quand même rien à voir.
C'est vrai.
Moi, je préfère le voir là-dedans. Et donc, dans ce film de Jim Jarmusch, alors je crois que c'est la troisième fois qu'il collabore avec lui en plus. Donc, en tout cas, dans ce premier triptyque, on voit vraiment. Bon, donc, déjà, il y a un malaise qui s'instaure directement. On sent le poids du deuil, on sent le poids des problèmes financiers entre le père et le frère et la sœur. Alors là, en plus, l'actrice, alors j'ai plus son nom, mais moi je l'ai connue dans une série qui s'appelait The Good Place sur Netflix, qui était une très très bonne série, une belle comédie. Et donc c'est déjà une très bonne actrice. Donc tous les deux, ils vont rencontrer donc le père, pareil, j'ai perdu les noms, je les ai mangés aujourd'hui.
Ouais,
merci beaucoup. Et en plus, j'aurais pas su le dire. Et donc en fait, tous les trois, ils essayent de se parler, c'est vraiment une ambiance où ils se réunissent tout autour du salon et en fait ils vont se dire des banalités complètement et on va s'ennuyer avec eux, on va être gêné avec eux. Moi ce que j'ai adoré c'est quand ils boivent le thé, le café, etc. C'est vraiment, c'est des trucs de la vie quotidienne où on sait pas trop quoi dire, on se regarde dans les yeux et puis on va se dire les banalités, puis bah en fait on va changer d'un plan à un autre, on va laisser le silence est un bruit dans ce film là. Et en fait c'est ça qui est hyper intéressant. Et le deuxième, troisième triptyque, c'est quand même sur les mêmes sujets qui sont un peu différents. Le deuxième triptyque, on va partir sur deux sœurs de mémoire.
Deux sœurs, qui sont les filles de Charlotte Rampling.
Exactement. Et le troisième, c'est plutôt sur des parents qui ne sont plus là. Et en fait, on va vraiment avoir ce lien familial qui va être tout au long du film.
Une sœur jumeau qui liquide l'appartement des parents qui sont parents.
Exactement. Et en fait, c'est vraiment. Ce film-là est sur le poids de la famille. J'ai trouvé très très intéressant dans ces problématiques au niveau de la relation qu'on peut avoir entre les parents et enfants et les problématiques, les choses qui peuvent se faire entre eux, tellement on laisse passer du temps entre chaque personne. Donc ça, on parle presque de communication, comment on communique avec les gens, comment on perd le fil, que ça soit même avec la famille, les désaccords, les accords, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans le traitement. Alors c'est, pour moi, c'est pas un film qui va accrocher tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde, clairement pas. Mais en tout cas, dans son jeu d'acteur, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et si on veut passer en tout cas un bon moment et on veut se poser, parce que c'est clairement un film où on se pose, on écoute. Et puis des fois on est d'accord, des fois on ne l'est pas. Et des fois on retrouve des choses de sa vie quotidienne qui sont assez frappantes. Ouais. Ou alors sur des choses sur lesquelles on a vécu, ou alors qu'on a vécu de quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'ai trouvé ça formidable. Voilà.
Oui, alors moi, évidemment, première chose peut-être à dire, c'est que c'est un film qui effectivement va être assez clivant. On va dire qu'en gros, c'est un film, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont vu, qui se sont ennuyés. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont vu, je me suis rencontré moi-même, très content de moi, d'avoir été voir ce film. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est amateur de Jarmusch, on a un petit peu là une sorte de quintessence. Alors, comme souvent, quand il y a clivage sur les films, on s'aperçoit que ceux qui l'ont aimé exactement pour les mêmes raisons que ne l'ont pas aimé ceux qui ne l'ont pas aimé. C'est-à-dire que là, c'est intéressant ça, parce que ça met en évidence cette opposition entre des données objectives. Donc on est quand même sûr d'avoir vu le même film, on peut l'analyser techniquement, objectivement, etc. Et puis ensuite, on arrive à faire la part de la subjectivité et de dire, bon, ça, à moi, ça ne me dit rien, alors qu'à celui à côté, ça dit énormément, et je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, ça dit énormément de choses sur la communication, sur la famille, sur la mort, sur la filiation. C'est, voilà. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais, je dirais que c'est un film, effectivement, devant lequel on se pose. Il a quelque chose de contemplatif et là encore de spirituel. Et puis, d'un autre côté, c'est une contemplation active, et l'activité de Jim Jarmusch, ici, on la voit dans son côté formaliste. Hein. C'est très formaliste, c'est-à-dire c'est très codifié. Il y a des codes qui sont propres à Jim Jarmusch. Et puis il y a les codes qui sont propres au lieu qu'il filme, que ce soit l'Irlande, Paris, il y a ces codes-là. Et ça va jusqu'au code couleur qu'on retrouve. Et donc, moi, c'est des choses qui m'ont fasciné parce que ça m'a mis dans la position d'être lecteur d'un film. Et il y a des gens qui sont très amateurs d'esthétisme, etc., mais qui ont été ennuyés un petit peu par ce côté formel, codifié et un petit peu hiératique comme ça du film. Donc je crois que c'est vraiment le genre de film où on a envie de dire allez vous faire votre idée. Mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que les amateurs de Jarmusch s'y retrouveront. Une petite en parenthèse encore pour souligner le côté à la fois contemplatif et actif formaliste du film. Les sketchs sont séparés par des moments de cinéma abstrait, très beaux, qui font penser au cinéma abstrait allemand des années 20. Je pensais à Hans Richter, à Walter Ruttmann, par exemple, ou à Oscar Fischinger, des films abstraits, où la pellicule est peinte, où on peint des plaques de verre, et puis on filme ça. Donc on a un peu ça, et ça fait des espèces de pause contemplative et formaliste entre les sketchs qui ont aussi ce caractère-là.
Pour ceux, alors si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est dans ma mémoire, The Tree of Life n'était pas comme ça au début du film.
C'est possible.
À l'intro, et Babylon aussi de Damien Chazelle finit comme ça sur une espèce de
j'ai pas la culture.
Pour ceux en tout cas qui ouais. l'auraient, et qui sur des films un peu plus récents, mais c'est un peu ce genre de choses-là. Ouais.
Mais moi j'invite vraiment les auditeurs qui connaîtraient pas, et même ceux qui connaissent pour revoir, parce que c'est pas des choses qu'on va voir habituellement, mais s'envoyer quelques films de quelques minutes, là, par exemple de Walter Ruttmann, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant, on aurait envie de voir ça sur grand écran encore aujourd'hui, c'est de l'art abstrait en mouvement, c'est de l'animation très 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 particulière que Jarmusch, donc je pense, utilise pour faire passer son esthétique à lui, quoi. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je crois que nous avons encore un film à l'affiche. Il s'agit de La Condition. Mais je n'ai pas de bande-annonce parce que je suis très maladroit comme garçon. Et c'est donc, je vais donc donner tout de suite la parole à Julien qui l'a vu.
Oui, tout à fait. Donc, La Condition, là, on est sur un film qui se situe, on va dire, tout début du siècle, je crois, et qui va nous parler, en fait, de deux sujets, en fait, hyper importants et hyper contemporains, malgré l'ancienneté du film. C'est à la fois la condition des femmes et le patriarcat, on va dire, entre guillemets, puisque là, du coup, c'est un sujet qui est contemporain. Contemporain, même s'il n'est pas cité comme ça, mais du coup ça peut intéresser, cet angle va, je pense, éminemment intéresser les gens, et à la fois la condition sociale des gens. Donc on a ces deux angles, effectivement, à cette époque-là, les conditions, on va dire, de vie des femmes et les conditions de vie des gens qui ne font pas partie de la caste, on va dire, supérieure, et hyper important. Alors là, je fais un petit raccourci, mais ça me fait penser, évidemment, la société du 19e siècle, par certains côtés, me fait penser à ce qu'on a pu voir sur quand on avait fait, par exemple, le plan large sur le Japon, à la condition de la femme au Japon, encore aujourd'hui, un peu, sur certains sujets. Et donc, du coup, je me disais, ben voilà, c'est pas qu'un combat ancien, c'est un combat assez contemporain.
C'est drôle ce que tu dis, parce qu'ils viennent d'élire une première ministre femme, mais qui va pas rendre spécialement service aux femmes. Donc c'est assez particulier. Ouais. Quoi,
hein. Et il y a le sujet aussi des. Là, on va faire un plan large qui va être dédié à l'Inde. Donc je vois un peu la mèche, mais oui. Ça vient juste d'être. Donc on l'a un peu en avant. Voilà. Et donc du coup, et je pense aussi au sujet des castes, voilà, là-bas. Donc je me dis, ben voilà, on a ça en France qui a eu lieu, et le film parle de tout ça. Et donc c'est un film de Jérôme Bonnel. On va retrouver Swann Arnaud, et là on parle d'acteur aussi. Oui. On a parlé d'acteur tout à l'heure, mais là, cet acteur Swann Arnaud, il est à chaque fois, moi je le trouve vraiment très très juste. Oui. Voilà, et ben là il l'est toujours. Et donc Louis Chevillot, Galatea Bellucci, que vous avez vu, voilà, j'imagine dans d'autres films. Donc l'histoire, c'est en fait une jeune femme qui est bonne dans un manoir, enfin dans une maison, on va dire, bourgeoise, voilà, des bourgeois, et un couple qui a des difficultés à avoir des enfants et qui a un relationnel très compliqué, comme on peut l'avoir à l'époque, parce que à l'époque on parle pas beaucoup de ces choses-là et on fait comme tout le monde, c'est tout. Voilà. Et donc du coup c'est très très bien fait. Je rentre pas dans le détail parce qu'après je veux pas non plus raconter l'histoire, mais vous allez voir, voilà, toutes les relations en fait qui a lieu entre ce mari et cette femme, ce mari et le petit personnel et ces femmes, tout ce microcosme est vraiment très très bien, très très bien fait. Hein. Très bon jeu d'acteur, je trouve que la condition, et c'est aussi une histoire, c'est comment, on va dire, à la fois le social et la défense, on va dire, et les femmes arrivent à se défendre, en fait, et comment les luttes se rejoignent, on va dire, autour de ça, sur l'événement qui a lieu à ce moment-là dans le film. Je sais pas si d'autres tu l'as vu, toi.
Non.
Et tu voilà, seul. Donc du coup c'est pour ça que je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas très très beau film.
Donc en lien avec l'opération Un Livre Un Film, si je ne m'abuse.
Voilà, alors du coup j'en profite pour le dire, c'est comme Fur Ciné Libre, La Condition, c'est deux films que vous pouvez voir à Tueil dans le cadre du festival Un Livre Un Film qui va avoir lieu sur un week-end, avec un vendredi soir avec un film, le vendredi avec La Femme de Ménage, donc ça rejoint un petit peu La Condition de manière très très lointaine, mais
décalé, hein,
voilà, de manière très pareil, très décalée, quoi, mais bon, ouais. Un peu de glamour peut-être voilà, attirer un peu en tout cas sur une séance d'ouverture, on s'est dit que ça serait rigolo, hein, voilà. Et donc donc ça sera le vendredi, donc La Femme de Ménage, et on aura effectivement le lendemain d'Halloé, dont vous avez parlé ici. Oui. Il va y avoir Fur Ciné Libre, donc le soir, et après le dimanche, on finira avec un film jeune public pour les plus jeunes le matin, avec Jacques et Nancy, Les Plus Belles Histoires de Quentin Black. Oui. Et puis,
tu connais Alexis ? Oui.
Et puis on aura l'après-midi La Condition, dont on vient de parler, voilà. Et on finira avec le film Lumière pâle sur les collines en VO, le film japonais que je vous invite à voir. C'est une adaptation du prix Nobel de littérature japonais, donc que vous pourrez découvrir et qui était à Cannes cette année, donc très beau film aussi. Voilà, si vous aimez le cinéma et lire, n'hésitez pas à venir. Il y a le tiers-temps qui nous accompagne avec ses livres. C'est en partenariat avec la médiathèque de Tueil. Je pense que ça va être un chouette moment, en fait, de cinéma pour ceux qui peuvent s'y rendre.
Sans doute, avec ce rapport. Pardon, Alexis.
Si je peux me permettre, alors nous, on a en parallèle au Cinéma des Vents, ce qui est un événement qui est plutôt à l'identique, à 45 km, donc c'est quand même assez loin, mais qui est pas sur les mêmes dates du tout. Mais par exemple, hier soir, on a fait idem, sur un film, un livre, dans le même système, et on a passé le match du Kremlin en avant-première.
Ah oui, d'accord, ouais.
J'en parlerai sur les prochaines émissions, vraiment très intéressant. Et on a aussi Les Enfants de la Résistance qui va bientôt sortir avec l'adaptation. Et voilà, c'était pour faire un petit mot par rapport à ça.
Bon, alors moi je voulais simplement dire que cette thématique d'un livre, un film, bon, on connaît. Il y a une émission de radio, mais c'est sur une radio concurrente, alors on s'étend pas, hein, ça sert à rien. Alors toujours, j'avais très envie d'évoquer le festival Télérama. C'est pas pour rajouter de la promotion à la promotion, mais enfin quand même, ça fait quelques années que via ce festival, on met en avant quand même des films de très très haut niveau. J'avais envie, pendant le temps qui nous reste, il nous reste quoi, moins de 10 minutes quand même, voilà. Mais enfin, il s'agissait d'évoquer les films qui ont été sélectionnés pour le festival Télérama, dont certains évidemment seront à l'affiche ici au Benin, d'évoquer ces films à la condition naturellement que nous les ayons vus. Et à chaque fois, le petit jeu, c'était que chacun de nous, nous sommes trois là autour de la table, que chacun donne une raison qui, selon lui, serait la bonne raison pour aller voir ce film. Alors, dans cette liste, Une bataille après l'autre, hein, il s'agit d'un film de Tom Anderson, avec un casting assez terrifiant, puisqu'il y a Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, absolument incroyable dans ce film. Alors, pour moi, ce film-là, bah, allez le voir avant tout pour vivre une belle aventure en cinéma, quoi. Voilà, c'est sans plus.
Si, moi, je trouve que c'est le film le plus accessible de Paul Thomas Anderson au niveau du grand public, déjà, donc tout le monde peut aller le voir. De deux, si vous voulez voir une belle poursuite de bagnole sur la fin, qui a un peu redéfini un petit peu la scène de voiture d'ailleurs, parce que moi j'avais jamais vu en tout cas de scène comme celle-ci. Ça m'a fait exactement penser à Bullitt, alors je dis souvent sur la longueur, etc.
Oui.
Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Ouais. Et allez le voir rien que pour ça, en fait. Et puis ça parle bien de la société américaine actuelle.
Oui, complètement. Voilà. Complètement. Alors c'est pour ça, je veux dire que on pourrait très bien conseiller d'aller voir ce film en raison des enjeux politiques qui sont derrière, mais je pense que quand on a trop en tête les enjeux politiques, on risque de trouver le film faible, parce que ça reste quand même très visuel.
C'est un film de divertissement.
C'est un film de divertissement, voilà. Alors, autre film, peut-être moins de divertissement, Valeur sentimentale de Joachim Trier. Avez-vous vu ça, Julien?
Ouais. Moi, j'ai pas vu.
Ouais. Alors, en quelques phrases, mais déjà, film très puissant, très, très pudique. Moi, j'ai le souvenir. Alors, oui. C'est assez froid. Enfin, pudique et froid.
Ouais.
Donc, moi, je l'ai pas aimé tout de suite, ce film-là. Je l'ai vraiment digéré. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai aimé. Et parce que c'est une expérience cinématographique qui est tellement intime. Parce qu'on parle de certaines choses qui peuvent être très graves et qui ne sont pas dites.
Oui. Alors en deux mots, ouais, après le décès de la mère, père retrouve ses filles. Ses filles ont deux carrières très différentes. Une est actrice de théâtre, l'autre chercheuse. Et le père, lui, est réalisateur et réalisateur connu. Ce serait une espèce de cinéaste auteur très connu. Et donc, il revient auprès de ses filles. Et donc, voilà, ça explique ce que tu dis sur ces relations intimes, ces choses de l'intime qui sont qui habitent ce film d'un bout à l'autre.
Et si vous aimez le cinéma, c'est quand même une belle une belle œuvre pour représenter ce qu'est le cinéma et dans sa pudeur aussi.
Voilà, voilà. C'est ça. Alors donc, je rajoute mon grain de sel. Je suis entièrement d'accord avec Alexis. Ben, il m'a pratiquement enlevé les mots de la bouche. J'avais envie de dire que pareil, hein, du temps pour laisser descendre ce film, etc. Mais on sent qu'on a vécu quelque chose. Et puis une chose qui après coup m'a beaucoup étonné, c'est comment on arrive à être à ce point concerné directement par un film par une action qui se déroule dans un milieu élitiste très très étroit finalement, parce qu'on est entre un acteur et sa fille actrice de théâtre, donc c'est un milieu qu'on fréquente pas personnellement, que je fréquentais très vraiment pas, quoi, et on pourrait craindre que ça va nous rendre l'action complètement étrangère, et voilà, et en fait non,
les problématiques sont les mêmes,
voilà,
en fait,
c'est ça.
On est tous humains,
voilà, c'est ça, et je crois que c'est ça que ça met bien en avant. Ça fait un petit peu liste, mais les films sont tellement exceptionnels que j'ai pas trop l'impression de faire une liste. Un simple accident de Jafar Panahi.
Eh ben, moi, je dirais, si vous aimez à la fois rire, parce qu'on rit beaucoup dans ce film-là, et à la fois vous indigner, parce qu'on s'indigne beaucoup dans ce film-là, et à la fois, effectivement, louer, voir un film qui est fait quand même dans des conditions assez extrêmes, en fait, donc, qu'on ne sait pas. Donc, si vous aimez beaucoup aussi les arrières de bagnoles, de minibus ou ce genre de choses, je pense que vous allez adorer ce film-là.
Donc, comédie grinçante, déjà, on peut l'appliquer comme ça. Et puis, en fait, je pense que Jafar Panahi, en fait, c'est aussi sa touche de cinéma, c'est de tourner à la volée, de toujours très bien réfléchir.
Des plans volés,
toujours très bien réfléchi, mais en fait, on s'adapte plus à la situation qu'autre chose. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une patte vraiment de ce réalisateur-là, et pour moi c'est un des chefs-d'œuvre de l'année. Hein.
Complètement, voilà. On est d'accord, et je me réjouis comme ça intérieurement, parce qu'en entendant mes camarades parler, je me rends compte qu'ils disent exactement ce que je voulais dire. Alors, évidemment, on a chacun nos mots. Moi, je disais que j'avais envie de dire que Jafar Panahi là rassemblait tout l'art de la dramaturgie, de comédie, tragédie, enfin tout l'art de la au service quand même d'un message, d'une idée et d'une lutte, parce qu'il s'agit quand même du régime iranien qui l'empêche de créer comme il empêche les gens de vivre. Alors par les temps qui sont malheureusement les nôtres aujourd'hui, avec cette répression ultra violente dont les ONG arrivent à quand même être les témoins malgré la coupure d'internet. Donc un film comme celui-là, comme le disait Julien et d'ailleurs Alexis, on se rend compte que l'art de la dramaturgie, Panahi arrive à le développer dans des conditions de tournage absolument incroyable. Donc, ce film, donc, vous l'avez compris, en Iran. Donc, on change complètement. Oui, je vois. Peut-être pas tant que ça. D'atmosphère avec l'agence secrète de Kleber Mendoza Filiu. J'en ai parlé avec Julien déjà à Cinémascope ici.
Oui, oui. Alors, on en a parlé. Bah, du coup, moi, je veux bien commencer parce que moi, j'y vois tout à fait un lien avec le précédent,
oui,
parce que
fait, oui.
Si vous aimez beaucoup justement les histoires de jambes. Parce qu'effectivement, il y a une très belle scène avec une jambe, on va dire, dans le film de Jafar Panahi, et on retrouve aussi une très belle scène avec une jambe dans l'agent secret. Donc du coup, c'est la thématique de l'année, on va dire.
Voilà. Je crois qu'ils se sont prêtés la jambe.
Voilà,
entre
c'est
eux.
Ça. Ouais, c'est ne sais pas si c'est la même jambe ou
pas.
Voilà,
chopé. Je l'avais pas. Au départ, mais effectivement, oui, voilà. Alexis.
Donc, mais en tout cas, un film pas du tout à prendre par-dessus la jambe. Il faut vraiment aller le voir.
On était tombé d'accord pour dire que c'était l'illustration parfaite du film d'auteur.
Voilà, en tout cas, moi, c'est un peu le film de l'année pour moi, avec quelques autres, mais en tout cas, lui, il est en très, très, très bonne place. Je trouve que le film. Je dirais qu'il. Alors, en quelques mots, il rejoint. Si vous aimez Les Dents de la Mer. Culture pop un peu, etc., les années 70 on va dire, et l'idée de vous balader dans Récif au son d'une musique mais une bande son incroyable, voilà, et les westerns, parce que je pense qu'il y a une espèce de film comme ça, tout ce mélange là vous l'aurez dans ce film brésilien.
Moi je dirais ne vous fiez pas au titre. Et c'est le film anti-espion, plutôt, voilà, et allez le voir déjà, parce que c'est une merveille, de rien que dans sa patine, dans sa mise en scène. Moi je la trouve magnifique, on rentre très très vite dedans, et puis ouais, on mélange du fantastique, du thriller, de l'espionnage, etc. Et moi j'ai trouvé ce film assez sensible, et on s'ennuie jamais, même malgré sa longueur.
Il nous reste vraiment très très peu de temps, mais tu avais envie, pendant toujours Festival Télérama, Alexis, de parler de Sirat. C'est Sergi Lopez qui cherche sa fille dans les rêves partis au Maroc, accompagné de son fils.
Une des claques de l'année, pour moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient pas à ça, quoi. Ouais. Et ils sont, rien que la BO extraordinaire. Et puis, là, pour le coup, c'est un film à aller voir au cinéma. Parce qu'en fait, sinon, pour moi, on enlève toute cette, cette ambiance,
cette immersion,
cette immersion, et alors cette fin et ce cliffhanger de fin, et pff, voilà.
Je crois que Julien avait dit à peu près la même chose.
Oui, moi je pense que si vous aimez la musique électronique, c'est un indispensable, parce que au cinéma c'est assez rare d'avoir ces sujets là et puis un film sauvage, moi je dirais.
Exactement.
Bon, alors il me reste juste à conclure. J'avais dans ma liste encore trois films qui sont plus ou moins important, mais il y a Black Dog de Guan Hu,
qui pour moi était le film voilà, de l'année.
Si vous aimez le cinémascope, allez voir Black Dog.
Ouais, c'est incroyable.
Western contemporain.
Western contemporain, on pourrait dire ça, oui. Nouvelle vague, bon, pour l'histoire et du cinéma. Et puis alors, un petit peu dans l'esprit d'Agent Secret, mais enfin, très différent en même temps, Je suis toujours là de Walter Salles. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ne vous en privez pas. Il me reste à vous remercier de votre attention. Merci à Sylvain de réaliser cette émission comme toutes les semaines. Et puis je vous souhaite plein de films pour la semaine à venir. Ciao, ciao.
Ciao.
Salut.